Parfait, donc Reda, on a un modèle qui fonctionne, on sait quelle est la branche qu'on préfère, etc. Et on a un score, on sait que notre modèle marche, après on voudrait peut-être l'utiliser, puisqu'après tout c'est quand même pour ça qu'on est là. Donc comment est-ce que je fais pour qu'une application puisse utiliser ça ?
Eh bien, ce qu'on va faire, c'est donc exposer par le biais d'un service l'utilisation de notre modèle prédictif.
D'accord.
Donc, on va le réexécuter pour qu'on puisse créer une nouvelle expérimentation de scoring.
D'accord.
Ici, le principe est de ne pas justement brancher directement notre web service sur cette expérimentation pour éviter de réentraîner le modèle à chaque exécution. Dès que je l'appelle, je ne veux pas refaire tout le processus ici.
Ouais.
Ce qui serait... on y perdrait du temps, enfin, ça n'aurait pas d'intérêt.
Mais puis c'est pas ce qu'on cherche à faire en fait. Là, c'est juste... on a appris au modèle à reconnaître les patients qui sont malades ou pas. Et maintenant, on va lui donner les 13 premières colonnes et il va nous donner la 14e, quoi.
Oui. Donc là, le but, c'est en gros, on a fait notre modèle, on va le sauvegarder pour le réutiliser dans d'autres expérimentations.
Oui.
Dont celle justement sur laquelle on branchera notre web service, de manière à pouvoir donc directement l'interroger sans repasser par la phase d'analyse.
Alors, comment fait-on ça ?
Une fois que ça s'est bien exécuté, sans erreur, ici, l'option Create Scoring Experiment, qu'est-ce qu'il va me dire ? Il va me demander d'en choisir un d'abord, parce qu'effectivement, j'ai entraîné deux modèles différents. Donc, il veut savoir sur lequel je me base. Je sélectionne le Subparameters. Et donc, il me crée, dans un nouvel onglet, l'expérimentation de scoring. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait ici ? Il m'a fait un peu de ménage.
D'accord, donc il a enlevé tout ce qui était inutile.
Oui, donc on va zoomer un petit peu pour voir ce qu'il fait. Là, ce qu'on voit ici, c'est notre modèle qui a été donc sauvegardé. On peut le voir ici d'ailleurs. On pourrait le réutiliser en le reprenant de là. Ça correspond à ce qu'on avait en sortie dans le Subparameters. Du coup, on n'a pas besoin de réentraîner, il est prêt à l'emploi.
Okay.
Par défaut, il m'a branché donc un input et un output de web service. On va rassembler un petit peu ça, histoire d'avoir plus de visibilité.
Pardon, je suis désolé, je tousse, mais...
Buvez un coup si vous voulez.
Ouais.
De toute façon, là, je suis sur la démo, donc... Ok.
Vas-y.
Alors, attendez. Ok.
On est bon ? Bien. Donc, je vois deux modules ici, même plus ou moins grisés, qui correspondent à l'input et à l'output de mon web service.
Donc,
quand je vais vouloir l'interroger, les données que je lui donne en entrant sont insérées là pour suivre tout le processus ici et ressortir à l'issue du score modèle.
D'accord, on ne réexécute pas tout.
Voilà, donc il y a plusieurs choses déjà. C'est que ce que je voudrais faire, moi plutôt, c'est de pouvoir les donner directement telles qu'elles apparaissent après toute ma préparation.
Oui, par exemple, un homme c'est M et une femme c'est F et pas 0 ou 1 et 2. Et
voilà,
quoi.
Sans qu'il ait besoin de refaire toutes ces étapes-là.
Ok.
Donc, mon web service, en fait, je veux vouloir le brancher là.
Ok. Cool.
Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'en entrée, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir l'équivalent de ce metadata editor que je vais exécuter afin qu'on puisse en voir le contenu.
Ouais.
Et ce qu'on fait généralement quand même, c'est de ne pas renseigner la valeur à prédire justement quand on cherche à la déterminer.
Ouais.
Là, on a notre jeu de données qui est complet avec les 14 colonnes, mais concrètement, je vais lui donner 13 valeurs. Pour qu'il me ramène une 14e.
Ouais.
Donc ce n'est pas la peine que je lui renseigne le champ présence ou pas de pathologie, si c'est ce que je veux savoir.
Donc est-ce que tu lui dis que tu veux que les 13 premières colonnes et pas les 14e ?
Donc je constate ici effectivement que j'ai mes 14 colonnes, mais je veux donc retirer la dernière. Pour cela, le module qui va bien se nomme Project Colon.
Ouais, faire une projection, parfait.
Que je vais insérer ici, en faisant un petit peu de place. Que je vais brancher à la sortie du Metadata Editor et par conséquent, c'est le Project Colon ici qui arrive au point d'entrée.
Ouais.
Ce module-là va prendre toutes les colonnes
ouais.
en excluant la dernière.
Ok.
En sortie, ce que nous avons donc, ce sont que les 13 premières colonnes.
Oui, ça marche.
Et comme notre web service est branché ici en entrée,
il va comprendre que c'est ça ce qu'il faut demander en fait.
Oui. Il ne nous demandera pas la 14e à renseigner.
Okay.
De la même manière, à la sortie du score modèle, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir tout le jeu de données.
Oui.
Toutes les valeurs qui ont été renseignées plus celles qui sont prédites.
Oui.
Je n'ai pas besoin de ramener toutes les valeurs qui ont été renseignées puisqu'elles étaient connues à la base
oui.
par l'utilisateur. Donc, un autre module Project Colon ici.
Hop.
Ça va assez vite, hein, c'est intuitif comme interface graphique.
Ouais, ouais.
Ça va me permettre de lui dire, voilà, donc en sortie de ça, je ne veux
que les réponses.
Renseigner que la réponse, le score de labels. Je peux éventuellement joindre les probabilités si derrière je veux faire un traitement supplémentaire en considérant que
le score de labels, c'est bien.
Voilà. Une fois que j'ai ça, je peux l'exécuter.
Ok. Donc on voit complètement sur la gauche là, le aide à la décision qui est le modèle entraîné. Si tu montres juste ouais, celui-là. Donc
ouais.
Là, c'est effectivement le modèle entraîné qui a été entraîné dans Training Experiment, dans l'onglet Training Experiment. Et dans le Scoring Experiment, on le réutilise. Et puis après, il y a juste de la tambouille pour projeter les bonnes colonnes et voilà. Et c'est ça ce qu'on utilise comme Web Service Input. Ok.
Voilà, donc il y a qu'on est au scoring, donc il est presque terminé.
Ok.
Juste une petite projection, puis on est bon. Une petite parenthèse, c'est cette option-là, qui a d'ailleurs été ajoutée récemment,
ouais.
qui nous permet de basculer entre deux vues différentes.
D'accord.
Par défaut, j'ai la vue entre guillemets expérimentation.
Ouais.
C'est-à-dire que je vois ce qui s'exécute
ouais.
quand je clique sur Run. C'est tout ce cheminement-là qui est éclairé.
Ouais.
Si je sélectionne là, là c'est la vue web service.
Ouais.
Et là je vois ce qui se passe en fait. Quand je fais appel au web service, ce qui est en haut là, qui est grisé, ce sera ignoré. Il va donc renseigner les données dans ce point d'entrée-là avec notre modèle, directement scorer, projeter et fournir ça en sortie.
Okay.
Donc c'est aussi un bon outil pour savoir ce qui est exécuté ou pas, à quel moment. Parce qu'effectivement, quand on est là, on veut éviter quand même de faire des traitements inutiles. Donc, comme on peut le voir ici, en entrée, après le Project Colon, j'ai toutes mes colonnes, donc, sauf la dernière qui n'apparaît plus.
Ok. Et tout à la fin.
Et ici, je retrouve donc le score de labels, donc le résultat. Pour l'ensemble donc des lignes. Qui me sont parvenus depuis la source de données. Là, en l'occurrence, pour notre web service, on fera un appel pour un patient, par exemple, et on aura une valeur en retour.
Parfait.
Maintenant que ça c'est prêt, on va le publier.
Mm-hmm.
Ici, le bouton Publish Web Service le fait très simplement. Voulez-vous ? Oui.
Donc, voulez-vous, en fait, mettre ça à disposition sous la forme d'un web service REST ?
Voilà. Et comme c'est du REST, c'est utilisable facilement par toutes sortes d'applications.
Ok.
Donc, ça m'amène directement sur la page du web service. Je vois que j'en ai deux sortes déjà, de type request response et le batch exécution.
Ouais.
Le request response, c'est j'ai un patient, j'interroge le service, pour ce patient-là, il me renvoie une réponse.
Mmh.
Mais si j'ai 500 patients, 1000 patients, je vais difficilement exploiter ça, faire 1000 allers-retours par exemple.
Ouais.
Le batch exécution, c'est plutôt j'ai 1000 patients, j'ai mis ça dans un fichier que j'ai poussé dans Azure. Je demande à mon service d'aller me chercher ce fichier-là, de me le traiter et de me poser un nouveau fichier de réponse contenant donc les valeurs à prédire pour chacun de ces patients-là. Et quand c'est terminé, j'ai plus qu'à aller récupérer ce fichier-là, ce qui est nettement plus performant que de faire le ping-pong.
Ok.
Pour chacune de ces types, on a une page d'aide qui est quand même assez complète, qui nous indique donc l'endpoint au data, ainsi que les différents paramètres à renseigner.
Ouais.
Je vois par exemple que ici, mes paramètres s'appellent temps en temps, ils sont de tel type. Donc là-dessus, je ne peux pas me tromper.
OK.
Et j'ai même des codes d'exemple qu'on peut quasiment copier-coller dans notre application pour, là en C#,
ouais.
donc dans une appli console qui s'occuperait donc d'interroger notre service, mais aussi donc en Python ou en R.
Et donc, on a vu tout au début qu'on pouvait créer studio.azuremail.net, enfin cet environnement-là directement depuis avec un compte et sans s'occuper d'un compte Azure. Mm-hmm. Là, on l'a créé avec un compte Azure et donc on va voir un peu à quoi ça correspond du coup dans ton abonnement Azure. Donc, si tu nous remontres ton onglet Azure, comment est-ce que ça se présente? Donc là, effectivement. Effectivement, ouais, c'est là où on était allé pour aller se connecter à ML Studio et ouais. La partie web service. Donc, alors qu'est-ce que ça donne? Ok, donc là on a
notre web service.
On a notre web service, donc tu
avec
peux
un
rentrer
point de
dedans. Ouais.
Le voici.
Ah oui. Donc là, tu pourrais, si tu voulais, ajouter un point de terminaison ici en lui donnant un autre nom, etc. Ok. Et ou dans celui-ci, ce que tu peux faire aussi, c'est le configurer donc dans le point de terminaison par défaut. Tu peux aussi le configurer en disant, si tu vas dans configurer, en disant par exemple que tu veux un niveau de limitation fort ou pas. Donc par défaut, le niveau de limitation il est à fort, ce qui veut dire qu'on est en dev. Si on veut l'utiliser directement en prod, on va le mettre à faible et dans ce cas-là, on pourra effectivement être facturé comme pour de la prod, mais à l'inverse, on pourra avoir plein d'applications en parallèle qui sont en train de consommer,
consommer ça. Ouais.
Si vous voulez avoir des précisions sur le prix d'Azure Machine Learning, vous pouvez aller dans azure.com/pricing, enfin azure.com, et puis ensuite vous allez dans la rubrique pricing ou tarification. Et pour vous le résumer, c'est vraiment pas cher. Donc voilà, ça me paraît très bien. Est-ce que tu as des choses à ajouter ou à nous dire sur tout
juste,
ça
juste un point de détail aussi, ouais. En rapport donc à ces points de terminaison.
Ouais.
Le fait d'en créer un nouveau, donc de ne pas rester au-dessus par défaut, oui. Permet aussi de réentraîner automatiquement un modèle prédictif.
Ah oui.
Sans avoir à revenir dans ML Studio, à le refaire à la main. C'est-à-dire que, pour vous montrer rapidement, lorsque je reviens donc dans mon expérimentation, ça doit être celle-là.
Hein. Oui.
Si demain j'ai de nouvelles données, je veux faire évoluer. Mon modèle. Auparavant, ce qu'il fallait faire, c'était de revenir ici, de mettre à jour notre source d'information, de tout réexécuter, et puis de nouveau sauvegarder en tant que modèle entraîné, ou ouais. Alors de refaire un update du scoring experiment.
Donc, ce qu'il faut préciser là, c'est que dans ce scénario-là, le CSV que tu as au début serait remplacé par un reader vers la base de données, ouais. Ou vers autre chose en tout cas.
Voilà.
Mais moyennant ça.
Manuel, mais depuis peu, du coup, il est possible de le faire automatiquement, c'est-à-dire d'avoir un autre web service qui se brancherait non pas sur le scoring experiment, mais sur le training, mm-hmm. Et dont le but, en fait, est d'apporter de nouvelles informations à notre module, soit le train model, soit le subparameters.
D'accord.
Et d'automatiquement enregistrer le modèle nouvellement entraîné et de le mettre à disposition de notre scoring experiment.
D'accord.
Donc, de faire ça à distance. Et que notre service, après qui va interroger notre modèle, soit automatiquement mis à jour.
Typiquement, par exemple, dans notre cas de figure, on sait que le praticien, après avoir eu le modèle, sait qu'effectivement, il a classé telle personne comme étant malade ou pas malade. Et du coup, ce n'était pas forcément ce qu'avait prédit le modèle lui-même. Mm-hmm. Et on veut réentraîner ça. Donc, on va lui donner les nouveaux exemples en plus.
Ouais.
Et on va lui demander de se réentraîner pour qu'il s'affine un peu et devienne meilleur.
Voilà. Tout ça pour que ça se fasse de manière automatique, à présent et pas comme avant. Donc, il y avait l'étape manuelle de réentraînement et ainsi de suite.
Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour tout ça. Je pense que c'est déjà beaucoup moins de la science-fiction. c'est beaucoup plus concret. Et en tout cas, j'espère que ça vous a aussi aidé, que vous avez pu faire les exercices vous-même. En téléchargeant le dataset, vous pouvez refaire tous les exercices. Reda, tu nous as montré vraiment étape par étape comment on pouvait tout faire. Donc, normalement, vous devez pouvoir refaire exactement les choses en même temps que Reda en prenant la vidéo.
Ouais. Voilà. Le but aussi, c'était de montrer qu'on peut faire ce genre de choses sans avoir un bagage technique énorme en tant que data scientist ou autre. Ce sont des choses qu'on peut quand même appréhender assez facilement. Et il ne faut pas avoir peur de se lancer. Allez-y, il y a des jeux de données sur le net, on peut faire plein de tests, on peut essayer beaucoup de choses, voir comment fonctionne l'outil et déjà arriver à un résultat qui finalement est logique, qui finalement est, comme je disais tout à l'heure, est plus une question de bon sens que de réellement être affûté techniquement, notamment en termes statistiques.
Parfait, écoute, merci beaucoup Reda.
Merci à toi.